Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Sans tarder, j'aimerais avec vous ce matin plonger les regards dans cette parole qui a pour nous une valeur incroyable, la parole de Dieu. Je crois que c'est auprès de cette parole qu'encore ce matin, nous trouvons, nous recevons ce que Dieu veut nous communiquer. Et je voudrais vous inviter ce matin à faire un exercice qui n'est pas facile, puisqu'il est question de se mettre face au miroir. Ce matin, en vous préparant certainement, à un moment ou à un autre, vous êtes mis devant le miroir. Oui, non ? Oui ? Tout le monde ? C'est normal. C'est normal. On a besoin de voir ce que les autres voient. On a besoin de réaliser ce que les autres vont voir. Et dans la parole de Dieu, il y a trois textes en particulier qui parlent du miroir. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse les lire. Et j'ai pris en deux versions, je l'ai fait exprès, parce que des fois, il y a des nuances qui peuvent nous échapper et que on peut finalement retrouver dans les différentes traductions de la parole de Dieu. Je me suis limité à deux parce que vous comprenez bien, autrement il faudrait beaucoup de temps, mais on va lire trois références. On les lira deux fois, mais dans deux versions différentes. Donc peut-être vous avez une version avec vous, ça sera la version La Colombe, et la deuxième, ça sera dans la version Semeur, donc dans un français un peu plus nouveau, hein, un peu plus actuel, on ne va pas dire jeune, mais actuel, jeune, on l'est tous. Jacques chapitre 1, versets 19 à 26. Première lecture. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, long à parler, long à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui à qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. On fait la lecture dans la version Semeur, et vous allez voir qu'on a quelques intonations, quelques nuances qui enrichissent notre réflexion et notre compréhension de ce texte. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère, car ce n'est pas la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et il oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même et sa religion ne vaut rien. En réalité, ça le mot religion dans ce texte veut dire finalement sa relation, son cœur, son attachement à la parole de Dieu, finalement, il devient vain à cause de son attitude. Il est dans des actes religieux, mais pas dans une vie de foi. Dans ce premier texte, la parole de Dieu, il nous parle de quelque chose de particulier. Alors, un des effets du miroir, c'est que ce que l'on fait, quand on regarde dans le miroir, quand il y a quelque chose à corriger dans notre visage, il faut faire l'acte à l'envers. Parce qu'en effet, il reflète une image. Si vous faites le geste dans le sens que vous voyez dans le miroir, en effet, au lieu d'agir sur votre nez, vous allez agir sur vos oreilles. C'est vrai ou pas ? On est obligé des fois de se dire « Ah non, c'est à l'envers, il faut que je fasse attention ». Si j'ai besoin d'enlever quelque chose, je suis là et je suis tenté d'aller dans une direction, mais c'est dans l'autre que je dois aller. En effet, le miroir me permet de voir ce que les autres voient. Et le miroir me permet finalement de réaliser qu'il y a quelque chose que je dois corriger, non pas comme je voudrais, mais à l'envers de ce que je pense. Il est souvent le cas dans la parole de Dieu où Dieu nous demande de raisonner autrement. Si vous regardez bien, les principes de Dieu n'ont rien à voir avec les principes de ce monde. Les principes dans une entreprise, c'est une chose, mais les principes spirituels, c'en est une autre. On ne peut pas prendre des principes qui sont valables peut-être dans un contexte commercial ou d'activité, quel qu'il soit, et dire ces principes, ils sont bons aussi pour ma foi. Non. S'il y a peut-être quelques similitudes, c'est parce que le monde a été cherché dans les principes divins, des choses qui fonctionnent. Jamais le contraire. Je vous rappelle que la loi, telle qu'elle est, dans beaucoup de pays, elle existe à cause de la loi que Dieu avait donnée à Moïse, son serviteur. Le monde s'en est inspiré. Malheureusement, il ne s'est pas arrêté là, il a essayé de tordre le sens, c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais la loi de Dieu, elle demeure toujours la même. Dans ce texte, il est question d'un homme qui se regarde dans le miroir et qui, aussi vite, il oublie ce qu'il a vu. Ça arrive, non ? On a ce sentiment de dire, j'ai vu, mais là j'ai oublié. Est-ce que je suis bien coiffé ? Peut-être j'y reviens. Attends, est-ce que j'ai bien vu ça ? Alors, ce n'est pas que les hommes, hein, je vous rassure. Les dames aussi. Ah ! Deux fois plus qu'une. Parce que bon, si c'est le cas pour moi, moi je risque pas d'être décoiffé. Donc j'ai pas besoin de revenir pour voir si je suis bien coiffé. Par contre, il y a des détails de ma vie où Dieu me place devant le miroir. Et le miroir dont il est question, c'est la parole de Dieu. Est-ce que lorsque Dieu me place devant la parole de Dieu, est-ce que je la regarde et après je repars en me disant comme ça, j'oublie ce que j'ai entendu ? Où est-ce que je demeure devant ce miroir qui va me montrer, à fur et à mesure que j'avance, si je suis dans la vérité, si je suis dans la droiture, si je suis véritablement dans ce que Dieu attend de moi ? En effet, la première question qui s'impose suite à cette lecture, le miroir devant lequel Dieu me place, me révèle que je suis fidèle aux enseignements de la parole ? Oui ou non ? C'est simple. Est-ce que lorsque je lis la parole de Dieu, le reflet que j'ai de ma vie, parce que Dieu nous place devant sa parole, il nous l'a donnée pour qu'elle nous serve finalement de moyen de mesurer notre engagement, notre vie personnelle, notre vie spirituelle avec le Seigneur, et c'est un guide qui est une mesure unique pour tous. Il n'y a pas de règles différentes pour les hommes ou pour les femmes, il n'y a pas de règles différentes si la couleur de notre peau change, il n'y a pas de règles différentes si on est jeune ou vieux. Il est question pour nous de dire, Seigneur, ta parole, elle est là, elle est la même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ta parole, elle va s'accomplir complètement dans sa totalité jusqu'au dernier iota, la lettre la plus petite, qui est dans la parole de Dieu. Alors comment, moi, je m'y conforme ? Parce que si je lis dans la Bible que ce qui m'arrange et que je mets de côté tout le reste, je suis comme cet homme qui se regarde et repart et l'a oublié. Mais lorsque je reviens à nouveau devant la parole de Dieu, je me dis, oh mince, ça je l'avais oublié, je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas réalisé. Et dans la vie de tous les jours, quand on a oublié quelque chose, on compte sur ceux qui sont autour de nous, non ? Ça arrive peut-être que quelqu'un dise, ah t'as oublié ça, regarde. Hein, t'as rasé moitié de la barbe, pas l'autre, l'autre moitié. Ah bon, heureusement, tu me l'as dit. Et si on dit rien, il dit, ben, t'aurais pu me le dire, tu l'as vu quand même. Oui, mais c'était rigolo. Je me suis dit aussi que le miroir me permet finalement non pas de voir ce que je pense, mais de voir aussi ce que les autres voient en moi. Parce que je peux croire ce que je veux, non ? Je peux penser finalement qu'il n'y a rien à retoucher, c'est parfait. Oh, Seigneur ! Hein ? Soyons humbles et fiers de l'être. Seigneur, je me lève, je suis nickel, je suis un chrétien au top. Sauf que quand tu te mets devant la parole de Dieu, tu vois que ce top n'est pas top. C'est que finalement, tu as un regard sur toi-même qui est faussé, parce que tu es fait des idées. D'ailleurs, regardez dans ce texte, il dit « celui qui croit ». Si qu'il croit être religieux alors qu'il ne sait pas ni tenir sa langue, ni ceci, ni cela, et il ne se conforme pas au texte de la parole de Dieu, sa religion est vaine. Finalement, je peux venir dans une église, je peux être dans une église, je peux même être membre d'une église. Mais pour autant, ce n'est pas ça qui va faire de moi quelqu'un de sauvé. Ce qui va faire de moi quelqu'un de sauvé, c'est quelqu'un qui finalement se conforme à la parole de Dieu qui, elle est bonne, parfaite et agréable. Je peux vivre une vie religieuse où finalement je peux me dire à la fin de mes jours, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai été bon. Seigneur, je n'ai jamais fait de tort à personne. Seigneur, tu vois ceci, vous vous rappelez l'histoire avec ce jeune homme qui vient voir Jésus, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être parfait? Il ne voulait pas une petite chose, il voulait être parfait. Je dirais que le sentiment de base, il est bon. On devrait tous vouloir tendre à être parfait, tout en sachant que nous sommes imparfaits. Ça veut dire qu'on doit prendre conscience déjà qu'il y a un changement qui doit se produire dans notre vie. Mais dans le cas présent, il se confronte à celui qui est la parole faite chair, Jésus. Et le Seigneur lui dit, bah, écoute, voilà, tu dois respecter la loi donnée par Moïse. Ah ben ça, je l'ai déjà fait. Alors là, sincèrement, je crois que la poitrine de cet homme, il s'est bien gonflé. Hein, le torse, il était bien bondé. Il dit, bah, qu'est-ce qu'il va pouvoir me dire de plus ? Le Seigneur met le doigt là. Où ça fait mal. Croyez-moi encore ce matin, si nous on disait « Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas », le Seigneur le fait non pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'on lui a demandé. Alors quelqu'un se dira « Alors je ne demande rien ». Mais c'est à ton risque et péril. Parce que si le jour que tu te présenteras devant le Seigneur, crois-moi, tes pensées, elles seront visibles. Juste, je l'ai pensé, je ne l'ai pas dit. Hein? Non, 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 tes pensées, elles seront visibles. Et là, le Seigneur te dira, tu vois, j'ai parlé à ton cœur et tu n'en as rien fait. J'ai parlé à ton âme, tu n'en as rien fait. J'ai interpellé ton cœur, ta vie, et tu n'en as rien fait. Aujourd'hui, c'est trop tard. C'est comme cet homme riche qui, après avoir profité de la vie en long, en large et en travers, il se retrouve finalement dans un lieu de souffrance. Et là, il voit un homme qui, lui, de son côté, il n'avait que souffert. Mais ce n'est pas la souffrance qui l'a amené à être sauvé. C'est parce qu'il était attaché à Dieu. Et finalement, cet attachement à Dieu, il va lui donner une position que l'autre, malgré toutes les facilités que la vie lui a données, il n'a pas saisi. Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de souffrance. La question est... où ton cœur se positionne vis-à-vis de la parole de Dieu. Lorsque tu te regardes dans la parole de Dieu, lorsque tu mets ta vie face à la parole de Dieu, où tu en es ? Si tout est en ordre, alléluia ! Prépare-toi à retrouver le Seigneur. Amen ! Parce que le ticket est prêt. Mais si ce n'est pas le cas, le Seigneur t'invite encore ce matin et nous invite, parce que je m'inclus dans la prédication, ne me croyez pas, hein, c'est une réalité, ça vaut pour nous tous, c'est question pour nous finalement de dire, Seigneur, où j'en suis? Parce que je pourrais passer à côté. Je pourrais finalement ne plus considérer la parole de Dieu, mais de considérer tout simplement ce qu'on dit, mais ce qu'on dit n'a pas de valeur si elle n'est pas attachée à la parole de Dieu. Je pourrais modifier la parole pour qu'elle me fasse plaisir. Je pourrais choisir les textes et souligner ceux qui m'arrangent, les belles promesses. Alléluia, Seigneur. Et la souffrance, non, ça, c'est pas pour moi. Pour les autres, peut-être, parce qu'ils ont besoin de sanctifier. Seigneur, mais moi, tu vois, je suis déjà au top. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde, parce que quand on en arrive là, on arrive même au point de juger les autres. Et je ne crois pas que ce soit notre place. Mais le texte, il nous dit, celui qui plonge, un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Amen. Seigneur, ça, ça ne va pas dans ma vie. Seigneur, tu vas le gommer. Je ne parle pas des rides. Seigneur, ce qui ne va pas dans ma vie, Seigneur, tu vas l'enlever. Pour que mon visage ne soit plus ce visage que peut-être faisait partie de l'ancienne vie qui était la mienne. Mais Seigneur, tu vas gommer les traits qui encore, Seigneur, amènent mon regard, ma vision, mon action à être comme quelqu'un du monde. Seigneur, agis. Alors, première question, est-ce que face au miroir que Dieu place devant nous, est-ce qu'elle révèle que je suis fidèle aux enseignements de la parole ? On va voir un deuxième texte, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 13. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. On va faire la même lecture, le même texte, mais dans la version Semeur. L'amour n'a pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement, dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Deuxième situation où on est placé devant un miroir. Le Seigneur nous montre qu'il y a des choses dans lesquelles on s'est attaché. On s'attache à certaines choses, mais qui, finalement, n'ont qu'une valeur temporaire. La prophétie, on est attaché à la prophétie. Et on a le droit et le devoir de le faire, en sachant que ce qu'on connaît de la prophétie est quand même limité. Quand nous lisons les prophéties dans la parole de Dieu, bien souvent, on a du mal à comprendre le sens complet parce qu'elles nous sont encore, parfois, obscures. Mais le jour où les prophéties elles s'accomplissent, on se dit « Ah, voilà ce que ça voulait dire !» Pourtant, jusque-là, on s'est fait 50 000 tableaux de ce que ça pourrait être, de comment ça va se faire. Et chacun croit avoir raison. Chacun pense « Ah, mais moi je crois comme ça, toi tu penses comme ça. » Alors, c'est bien d'y réfléchir. Néanmoins, la réalité, elle est encore loin de notre compréhension parce que nous sommes limités. On a besoin que l'Esprit de Dieu nous révèle, nous montre, Mais la parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui, par rapport à tout ça, nous voyons au moyen d'un miroir. C'est d'une manière confuse, c'est pas clair ce qu'on voit. On a besoin que le Seigneur nous éclaire. Dans la version Semeur, il dit d'une manière indirecte. Quand vous sortez de certaines, quand vous circulez en voiture, parfois vous avez des miroirs qui sont mis de manière à vous montrer ce qui se passe de l'autre côté. Vous voyez, mais de manière indirecte. Si ce miroir, il n'est pas là, vous vous mettez en danger. La parole de Dieu, elle est là pour éviter qu'on se mette en danger. Et même si certaines choses, on les voit indirectement, même si certains événements, on ne les comprend pas, mais la parole de Dieu nous avertit et nous dit dans les derniers temps, voici les choses qui vont se produire. Et il nous dit, relaxez-vous, tout va bien. Ou je me trompe. Non, qu'est-ce qu'il dit? Soyez prêts. Finalement, la parole de Dieu, elle est là. Je ne vois pas clairement ce qui va se passer, mais elle est là pour m'avertir et pour me dire, fais attention. Parce qu'il y a des dangers qui peuvent venir de droite, de gauche, et toi, reste concentré, aie la juste vision. Mais Seigneur, je ne vois pas tout, je ne comprends pas tout. Même les disciples, Seigneur, est-ce que c'est maintenant que ton royaume va venir? Est-ce que c'est maintenant? Ils voulaient savoir. Et qu'est-ce que le Seigneur leur dira? Ce n'est pas à vous de savoir. Le Père sait. Pour vous, maintenant, vous avez une mission, accomplissez la mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi Jésus leur a parlé de la fin des temps? Pourquoi il leur a dit, je m'en vais, je vais vous préparer une demeure, après je reviens, je veux que là où je suis, vous soyez avec moi? Mais parce que le Seigneur veut que nous ayons un regard bien plus complet des choses. Tout en sachant qu'il y a des choses qu'encore on n'est pas prêt de comprendre, parce qu'on a besoin de les voir se réaliser. À fur et à mesure, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que Dieu va faire. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce que Dieu m'a dit? Est-ce que j'écoute la parole de Dieu et que finalement j'en prends la mesure et je me dis c'est à moi de me conformer à la parole, nous l'avons vu tout à l'heure, ou est-ce que finalement je me dis Seigneur, qu'est-ce que je dois, comment je dois marcher dans ma vie Seigneur, comment je dois exister Seigneur, puisqu'il y a des choses qui vont disparaître. Alors je voudrais te dire mon frère, ma sœur, nous avons cette responsabilité de nous attacher à ce qui demeure. Et le texte il nous le dit, la foi, l'espérance, l'amour. En sachant que la plus grande, ah, mais l'amour parfait selon le ciel, pas l'amour à deux sesterces qu'on connaît ici sur la terre. C'est pas l'amour je t'aime, je t'aime pas. C'est l'amour véritable, profond, un amour qui ne change pas au gré des vents. Parce que si le Seigneur nous avait aimés comme ça, je peux vous dire que le jour de la crucifixion, il aurait dit, ah, niette, regarde comme il m'aime. Hier, il chantait Alléluia, Hosanna. Et aujourd'hui, c'est crucifie-le. L'amour, il n'a pas duré grand-chose. Hein. Il y avait une date de péremption, c'était de courte durée. Mais nous ne croyons pas que c'était que au temps de la crucifixion de Jésus. Ce même amour, aujourd'hui, encore affecte les hommes. On est capable de changer de vision juste par un mot. Regardez, des fois, il y a des personnes, à la télévision, on les voit, on dit « Waouh, ils parlent bien, ils causent bien. Hein » Et après, on nous montre un truc qu'on ne savait pas. Et du jour après, ouah, il n'est pas bon celui-là. Il est mauvais. Hein? Je donne un autre exemple. Miss France. Non? Et là, elle est jolie, elle n'est pas belle, elle est ceci. T'as vu le nez, t'as vu les jambes, t'as vu la tête. Et on y va, et avec amour, hein? Toujours. Mais je crois qu'on est loin du compte. Parce que ça, c'est le raisonnement du monde. Heureusement que le Seigneur ne nous choisit pas à cause de la couleur des cheveux, la couleur des yeux. Si on est mince, parce que moi, je serais déjà éliminé. Le choix de Dieu se porte par rapport au cœur. Est-ce que dans ton cœur, est-ce que la foi en Dieu, l'espérance en Jésus-Christ et l'amour du ciel demeurent? Parce que ce que le Seigneur va chercher, c'est ça. Hein. Si ces valeurs, elles sont là, ton ticket, il est bon. Hein. Il y a un homme du nom d'Enoch qui dit la parole de Dieu, il marchait avec Dieu et Dieu l'a pris avec lui. Il marchait, ce n'est pas une question qu'il faisait du footing tous les jours. Hein. C'était question véritablement de s'attacher à ce que la parole de Dieu dit. Et comme il vivait cette parole, c'était sa vie, ben il était prêt à partir avec le Seigneur. Et il est question pour nous, encore une fois, aujourd'hui, frères et sœurs, de se dire, Seigneur, aide-moi. Parce que finalement, le miroir nous permet de voir ce qui est notre personne et nous permet de voir ce qui est derrière nous, ce qui vient des côtés, mais pas ce qui est devant nous. C'est juste ou pas? Vous ne voyez pas après le miroir, non? Qu'est-ce que vous voyez au miroir? L'image à l'instant T, ce qui est derrière vous, ce qui peut venir des côtés, mais devant. Ce qui nous permet de voir ce qui est devant nous, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Deuxième question. Le miroir devant lequel Dieu me place me révèle-t-elle que je demeure dans la foi, l'espérance et l'amour? Oui ou non? Troisième texte et troisième question auquel chacun doit répondre dans son cœur et en toute conscience devant le Seigneur. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 3 versets 15 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 15 à 18 qui dit ceci: jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, ou d'autres traductions diront par l'Esprit du Seigneur. On va lire le texte en version Semeur. Aussi jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur, dont parle le texte, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Amen. Lorsque la lumière frappe un miroir, généralement, si on est face à ce miroir, la lumière, elle devient tellement intense qu'on ne la supporte pas. Ça arrive parfois que le soleil frappe sur quelque chose et cette lumière, elle est finalement renvoyée et ça peut nous éblouir, n'est-ce pas? Finalement, c'est comme si cette lumière, elle est multipliée. On sait qu'à ce jour, nous, véritablement, on ne peut pas voir la gloire de Dieu, on ne pourrait pas résister, on ne pourrait pas subsister. Souvenez-vous, Ésaïe chapitre 6, lorsqu'il voit la gloire de Dieu, sa première, réaction, c'est de tomber par terre et dire « J'ai vu la gloire de Dieu, je ne vais même pas vivre. » Il avait peur. Jean, il va recevoir la révélation de la fin des temps, de l'Apocalypse, il va recevoir cette image et il va avoir peur de voir ce qu'il voit. Comment nous pourrions, aujourd'hui, regarder Dieu directement dans les yeux, c'est impossible. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un homme qui avait voulu voir la gloire de Dieu. Vous vous rappelez? C'est qui? Moïse. Est-ce qu'il aurait pu voir la gloire de Dieu, Moïse? C'était quand même un conducteur et pas des moindres. Il est appelé par Dieu lui-même comme un libérateur. Moi, je ne sais pas vous, mais un titre comme ça, ça ne se donne pas juste par plaisir. Dieu l'a préparé, l'a choisi. il l'a donné, c'était un cadeau de la part de Dieu. Il aurait pu mourir alors qu'il était petit, mais Dieu l'a protégé. Il a grandi là où finalement personne n'aurait pu imaginer que le libérateur aurait grandi, non ? Il a reçu toute l'instruction qu'il avait finalement besoin d'apprendre et après il fallait qu'il épure tout ça. Il fallait que l'instruction qu'il avait eue pendant 40 ans en Égypte soit finalement modifiée au regard de la parole de Dieu. Il aura besoin d'oublier les coutumes, il aura besoin de mettre de côté la vision de l'Égypte pour apprendre ce que Dieu voulait qu'il apprenne, ça veut dire être comme un berger pour les brebis d'Israël. Et lorsque il demandera à Dieu de voir sa gloire, la parole de Dieu nous dit que la réponse de la part de l'Éternel fut « Tu ne peux pas voir ma gloire, mais tu vas te cacher au creux du rocher et tu me verras par derrière. » Que s'est-il passé après cette vision incroyable ? Dites-moi. Quand Moïse est redescendu de la montagne après avoir vu finalement la gloire de Dieu, son visage, dit la parole de Dieu, était rayonnant. Même le peuple ne supportait pas. D'ailleurs, le texte que nous venons de lire, il nous ramène à ça. Il dit finalement, il enlevait le voile, il était obligé de couvrir son voile parce que ce que les autres voyaient sur le visage de Moïse les renvoyait à leur vie pécheresse. Il leur rappelait que leur situation de pécheur était une réalité. Frères et sœurs, si nous sommes placés devant la gloire de Dieu, nous devrions être dans ce monde comme Moïse il a été pour le peuple juif, un moyen de dire vous avez besoin de vous repentir, vous avez besoin de venir au Seigneur. Notre témoignage doit rayonner la gloire de Dieu. Si ce n'est pas le cas, c'est que je n'ai encore raté quelque chose dans ma vie. Quand Dieu me place devant le miroir, ce n'est pas pour me montrer tous mes défauts, mais c'est pour me ramener à la perfection. Quand Dieu me place devant le miroir, ce n'est pas pour me dire « tu vois, t'es beau ». Non, ce n'est pas ça, c'est pas ça l'essentiel. Ce qui est essentiel pour moi et ce que la parole de Dieu m'enseigne, c'est que Dieu veut que je sois avec lui pour l'éternité dans le ciel et je ne veux pas rater ce rendez-vous. Alors est-ce que je suis prêt à dire « Seigneur, mets-moi devant le miroir et montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie ». Et tant que je ne l'ai pas réglé, Seigneur, que je ne quitte pas le miroir, Seigneur. Toute ma vie, Seigneur, je veux marcher avec ce miroir qui va me montrer. Seigneur, ta parole va m'éclairer pas après pas. Je ne veux pas m'égarer, Seigneur. Ça devrait être notre GPS. On devrait être le reflet de Jésus-Christ. Il est question pas non plus de renvoyer notre image, mais l'image de Christ en nous. Amen. Et cela n'est possible que si finalement j'accepte cette transformation qui doit avoir lieu dans ma vie. Je ne pense plus comme Emmanuel pensait, je dois penser comme Jésus pense. Donc je dois mettre de côté toute ma vieille pensée et la jeter au fond de la mer et dire « Seigneur, fais qu'elle coule profond. Hein. Mets un truc dessus qui me baleine le bouffe, ou qu'un autre truc bouffe la baleine qui a bouffé le truc. Que plus jamais on le retrouve, Seigneur, cette image de ma personne. » Seigneur, je ne veux plus être comme avant, mais j'ai besoin finalement que ta parole me montre s'il y a encore un petit bout de ma vieille vie, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas rester comme ça, mais je veux refléter la gloire du Seigneur. Et ça nous renvoie peut-être aussi à nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Parce que ça, c'est pas que pour les pasteurs, hein, je vous rassure. Hein. C'est pas pour les membres du CA. C'est pour tout le monde, du plus grand au plus petit. Des fois, on entend les témoignages des tout-petits. Et moi, je me dis, Seigneur, merci, parce que, Seigneur, tu ne regardes pas à l'âge, et tu regardes au cœur. Et il y a des petits qui nous donnent des leçons. Hein. Je peux vous dire, ils vous mettent deux baffes aller-retour direct. Hein. Et dit, lui, il a compris, moi, je n'ai pas pigé ça. Mais oui, lui, il a regardé le miroir. Toi, peut-être, tu as regardé la série « Les cheveux dans le vent ». Ah, quand j'étais beau et jeune, des fois, vous savez, on s'égare en regardant des choses qui n'ont aucune valeur. On passe du temps à regarder à la télévision des bêtises qui nous éloignent de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu. On nous montre des valeurs qui ne sont pas bibliques, auxquelles on devrait dire « je ne veux pas souiller mon cœur et mon âme avec ce genre de choses ». On veut nous faire accepter des choses qui sont inacceptables. Et finalement, nous amener au compromis. Mais on peut vivre tous comme ça, c'est pas grave. Tu penses ce que tu veux, l'autre il pense ce qu'il veut. Mais c'est pas important ce que je pense et ce que je veux. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur pense et ce que le Seigneur veut, non ? Alors, en tant qu'enfant de Dieu, je dois finalement revenir à l'essentiel et dire, Seigneur, donne-moi pas seulement de voir ta gloire, mais que ta gloire me transforme en ton image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Waouh ! Il faut que ça... Excusez-moi, comme les jeunes disent, il faut que ça pète. Il faut que ça pétille, il faut que ça éclaire en pleine nuit. Il faut que cette lumière que Christ a placée dans notre vie fasse que nous puissions éclairer parce qu'on vit et on va vers des temps encore plus sombres. Alors, ne soyez pas étonnés que étant éclairé, étant éclairant, ben vous devenez une cible. La cible de qui ? De ceux qui finalement ils vont être confrontés à leur vie, à leur péché, à leur déchéance. La Bible, elle parle de ceux qui sont en Christ, qui répandent le parfum de Christ, parfum de vie pour ceux qui sont vivants, mais parfum de mort pour ceux qui sont morts. Alors sommes-nous prêts à dire, Seigneur, je veux refléter ta lumière. Vous savez, face à cette lumière aussi forte, aussi puissante, certains détournent le regard. D'autres ne supportent pas cela, ils mettent des filtres pour éviter l'aveuglement et finalement ne pas être dérangés. Que le Seigneur fasse que dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y ait pas d'hommes et de femmes qui mettent des filtres à la parole de Dieu pour dire comme ça je ne le vois pas trop, ça ne me dérange pas trop, et que finalement ça s'appelle un compromis, mettre quelque chose entre Dieu et nous. Troisième question et la dernière. Le miroir devant lequel Dieu me place. Me montre-t-il que je reflète la gloire de mon Seigneur ? La réponse est personnelle. Mais si à une de ces trois questions ce matin, il y a encore de l'incertitude, s'il y a encore peut-être même un non, moi je voudrais vous dire que Dieu ne veut pas qu'on reste dans cet état-là. Et que si Dieu nous parle, c'est parce qu'il veut que cette situation change dans notre vie. Je ne veux pas être le reflet d'une vie chrétienne. Je veux être le reflet de Jésus-Christ. Je ne veux pas être juste un simulacre de religieux, que Dieu nous garde. Mais être quelqu'un qui voit la parole de Dieu et qui l'applique à sa vie, même quand ça fait mal. Il y a des textes de la parole de Dieu qui nous font mal. Mais c'est comme ça. C'est la parole. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Ça ne changera pas et Dieu ne va pas changer les règles pour toi. Souvenez-vous du jeune homme. Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce que Jésus lui a couru derrière ? Est-ce que vous voyez Jésus lui dire, écoute, attends, pour toi, allez, 50%. Allez, pour toi, on va changer les règles. On va faire autrement parce que quand même, tu es à 99% de bon. Pour 0,1, on doit trouver moyen quand même de régler le problème, non ? Pour un point. C'est rageant de perdre pour un point, non ? Pour un point. Pour une seconde, il y a des athlètes qui ont raté la médaille. Non ? Et pourtant, ils ont couru. Moi, j'ai rien raté. J'ai pas couru cette course. Mais il y en a une que je ne veux pas rater. Parce que celle-ci, elle me tient à cœur. Il y a une chose que je ne veux pas rater. C'est ma vie éternelle. Il y a quelque chose que je ne veux pas rater parce que je ne peux pas m'imaginer de vivre l'éternité sans mon Seigneur. Et si même ici sur la terre, je suis amené à souffrir comme Lazare a pu souffrir, au lieu d'être au bénéfice des richesses de ce monde, des plaisirs de ce monde, mais qu'à la fin, je me retrouve dans la présence de Dieu, ça vaut bien toutes les souffrances. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes, fermer nos yeux ? Seigneur, ta parole, elle nous donne un exemple, Seigneur, particulier. Tu as souvent utilisé les choses de la vie courante pour nous amener à réfléchir, pour nous amener à, à méditer davantage. Et certainement qu'en rentrant à la maison, si on croise un miroir, Seigneur, quelque chose va encore une fois nous rappeler, Seigneur, ta parole, et merci pour ta parole. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui regardent le miroir et repartent oublieux, et reprennent leur vie, leur cours, leurs actions, leur travail, leurs loisirs, sans rien changer. Mais nous voulons te dire encore ce matin, Seigneur, puisque c'est de notre éternité qui, Seigneur, est question, s'il te plaît, aide-nous. Oui, Seigneur, je sais, tu as fait ce que je ne pouvais pas faire à la croix. Et tu attends que je fasse ce que j'ai à faire. Mais même dans ce que j'ai à faire, j'ai besoin de ton aide. Même là, nous avons besoin de ton secours. Même là, nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur. Merci, Seigneur, encore de ta miséricorde sur notre vie. Merci encore de ta grâce sur nous, cher. Seigneur, étends ta main. Et là, Seigneur, où il y a encore des points à retravailler, des points, Seigneur, voire même à démarrer dans ma vie, éclaire-moi. Seigneur, sois celui qui prend soin de notre âme à chaque instant. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu l'as mis à notre portée. Tu nous l'as donné comme un cadeau précieux. Et c'est ainsi, Seigneur, que nous le considérons, Seigneur. Elle est précieuse pour nous. Seigneur, elle a une valeur incroyable. Elle a autorité. Et Seigneur, tu dis dans ta parole que tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Alors guéris notre âme, guéris notre esprit. Guéris, Seigneur, nos pensées qui sont blessées. Guéris nos cœurs qui ont pu être blessés, Seigneur. Bénis, Seigneur, encore ton peuple par ta présence et par la lumière que toi, Seigneur, tu envoies sur nous. Nous voulons, Seigneur, être le reflet de la gloire du Très-Haut, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.